9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bienvenue dans C'est arrivé cette semaine. Eh bien, ce qui est arrivé, ce sont des vidéos de violences policières qui ont soudain tout changé. Même le ministre de l'Intérieur parle maintenant de problèmes structurels dans la police. Christophe Rouget, secrétaire général du SCSI, le syndicat majoritaire chez les officiers de police, est en direct avec nous ce matin. Et puis cette semaine, le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles aides pour les plus précaires, alors que la pauvreté a fait un bond dans notre pays depuis la crise du coronavirus. Esther Duflo, qui a reçu le prix Nobel d'économie l'année dernière pour ses travaux sur la lutte contre la pauvreté, sera avec nous pour les commenter. Enfin, on fêtera la réouverture des librairies, enfin, c'est pas trop tôt, avec Cyril Gelli qui sort un roman sur Antonio Stradivari, le fabricant des Stradivarius. Bonjour Christophe Rouget.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes commandant de police, secrétaire général du SCSI, le syndicat majoritaire chez les officiers de police. Merci d'avoir accepté mon invitation. La loi de sécurité globale avait été votée sous les applaudissements, en dépit des protestations de tous ceux qui invoquaient les libertés publiques. Et puis patatras, des vidéos de violences flagrantes contre les migrants et les journalistes Place de la République d'abord, et jeudi soir contre un paisible producteur de musique dans le 17e arrondissement qui avait le tort de ne pas porter de masque et d'être noir. Tout le monde est choqué, même le ministre de l'Intérieur, même le président de la République, vous l'êtes aussi.
Oui, évidemment, tous les policiers sont choqués parce que nous exerçons un beau métier avec passion et nous sommes à la fois tristes et en colère. Nous sommes tristes parce que certains ont sali notre institution, ils salissent notre image. Et il n'y a aucun doute là-dessus, nous sommes très clairs, le racisme et les violences légitimes n'ont pas la place parmi la police nationale. Mais ces comportements de certains affaiblissent notre institution. Ils y rendent en plus le quotidien des policiers difficile. D'abord difficile dans leur famille, parce que vous avez vos enfants, vos compagnons, vos épouses, vos amis qui vous disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et donc vous êtes, quand, dans votre milieu privé, assailli de questions. Et puis ils rendent aussi difficile leur métier sur le terrain, au quotidien, parce que ces images, elles favorisent le sentiment anti-flic, dont certains font un fonds de commerce, et cela rend chaque jour leur travail plus difficile au quotidien.
Même Gérald Darmanin a reconnu qu'il y avait un problème structurel dans la police.
Il y a un problème structurel, oui, il y a des problèmes d'organisation. La police, vous savez, elle a une crise morale, de moyens, de fatigue. Depuis 2016, la gronde des policiers, finalement, on n'a rien résolu. On avait diminué les effectifs de police sous Nicolas Sarkozy. Ensuite, il y a eu le terrorisme, donc on a dû renforcer ces effectifs, mais on a réorienté notre action vers toute l'action antiterroriste, et c'était normal. On a la procédure pénale qui s'est considérablement alourdie, et on manque de policiers de notre cœur de métier, ce qui est la police secours. Donc en plus, on a des gouvernements successifs qui instrumentalisent la police nationale et qui ne donnent pas de cap et des injonctions contradictoires. Donc je crois qu'il faut qu'on reprenne notre calme, qu'on discute, qu'on trouve des solutions pour améliorer une police nationale qui est gangrenée par les conservatismes. Vous savez, c'est des gens à l'intérieur de la police nationale qui se disent « bon, demain le ministre sera plus là ». Ils ont raison, il y a eu 9 ministres en 10 ans, les préfets qui se succèdent, mais les problèmes de fond persistent.
À propos de préfet, justement, certains se tournent vers le préfet de police, le chef de la police à Paris, Didier Lallement, pour demander sa tête. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Vous savez, les hommes politiques, ils sont parfois très forts pour changer, je l'ai dit, les personnels politiques, les préfets, on change. Mais si on ne change pas le fond du problème, ça ne servira à rien. Je vais prendre l'exemple de la place de la République que vous citez l'autre jour. Alors d'abord, c'était un piège qui a été tendu aux forces de l'ordre, on le voit très bien, et je pense surtout aux migrants qui ont été manipulés dans cette histoire. Mais la police n'a pas bien réagi. Pourquoi ? Il y avait un problème, on ne pouvait pas laisser en pleine crise sanitaire ces pauvres gens sur cette place. Mais il fallait faire travailler des professionnels. Là, nous avons utilisé des bacs. Les bacs, c'est des gens qui ne sont pas faits pour ce travail-là. Dans les années 90, on s'est dit, tout le monde, la gauche, la droite, nous n'aurons plus besoin de forces de l'ordre. La société va se pacifier, pas de problème. Ensuite, on s'est aperçu avec la crise des gilets jaunes qu'on avait besoin de forces de l'ordre. Aujourd'hui, on a des gendarmes mobiles, On a des CRS et on a des forces spécialisées aussi à la préfecture de police. Mais là, on a utilisé des gens qui ne sont pas spécialisés. On a utilisé des gens qui travaillent pour les violences urbaines dans les quartiers. Et là, on leur a dit, ben, il faut déloger chez eux, sans matériel, sans entraînement. Et donc, on a des problèmes. Vous êtes un grand journaliste, mais si demain, on vous dit de faire le service des sports ou le service économique, vous ne serez peut-être pas aussi compétent. Et ça, c'est bien le problème. Ces jeunes policiers, ils ne peuvent pas savoir tout faire.
Mais on est frappé tout de même de la proximité. Il y a cet article 24 qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est voté sous les applaudissements. Et quelques jours après, ces vidéos très violentes qui viennent gâcher, j'imagine, la fête chez les policiers. Stéphane Séjourné, le conseiller politique d'Emmanuel Macron et député européen, a déclaré jeudi qu'il serait temps, je le cite, que le préfet de police fasse en sorte que ceux qui font respecter la loi la respectent eux-mêmes. On a l'impression qu'il y a chez les policiers un sentiment d'impunité et qu'il a été augmenté encore par cette loi sécurité globale.
Non, parce que d'abord, la loi n'a pas été votée. Mais vous savez, nous, notre organisation, on a écrit aux députés en disant, dans cette loi, parce qu'il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de choses qui vont permettre d'améliorer la sécurité de nos concitoyens. Mais cet article 24, ça ne doit pas être un totem. Là, c'est devenu quelque chose qui est dans un débat totalement binaire, hystérisé. Cet article disait, voilà, la liberté de la presse. Nous ne la discutons pas, elle est incontournable. Et ensuite, il faut trouver une solution. Et ça, tout le monde est d'accord. Je prends aussi pour dire, on est dans un climat où les policiers sont agressés, sont violentés, sont font l'objet de chasse à l'homme sur les réseaux sociaux. Donc, il faut les protéger. Donc, que ce soit avec l'article 24 ou autre chose, mettons-nous autour de la table. Moi, je fais confiance aux parlementaires. Vous savez, chez les parlementaires, il y a beaucoup d'avocats, par exemple, beaucoup plus que de policiers. Et donc, je fais confiance aux parlementaires pour améliorer le texte et pour discuter si on peut trouver une solution pour arriver à, dans le dialogue, protéger les policiers et assurer la liberté de la presse. Parce que nous avons quand même un vrai problème aujourd'hui, dans le maintien de l'ordre par exemple, c'est que les journalistes doivent faire leur travail, mais aujourd'hui dans les manifestations, tout le monde est journaliste et tout le monde se retrouve entre les forces de l'ordre et dans les manifestations. Et donc là, il faudra réfléchir ensemble, les associations de journalistes, les syndicats de journalistes, avec les services de police pour trouver une solution, que chacun puisse faire son travail dans la sécurité.
Là, vous parlez de crise morale, Christophe Rouget. C'est vrai que il y a une crise morale de la police. On en parlait dans cette émission avec Sébastien Rocher la semaine dernière. 2 personnes tuées, 30 personnes mutilées en 6 mois pendant le mouvement des Gilets jaunes. Il n'y a pas d'autres polices en Europe qui se soient arrivées. Et il y a une documentation très précise de ces violences grâce à la vidéo, justement. Et là, ces nouvelles vidéos qui viennent s'y ajouter. On sait que la population française est parmi celles en Europe qui ont le moins confiance en leur police, pas seulement dans les cités, d'ailleurs même les classes privilégiées ont moins confiance en la police que leurs équivalentes dans les pays voisins. Est-ce que ça ne pose pas un problème aux policiers en France?
Si, ça nous pose un problème, parce que nous sommes fiers d'être policiers. Alors, je vais juste un peu rectifier vos propos. On est soutenu par les 2 tiers de la population. Et donc, je crois que c'est assez constant. Mais il y a eu des problèmes.
On peut soutenir la police et ne pas avoir confiance en elle. On peut la soutenir au moment où elle est dans la difficulté, vous le savez bien.
Tout à fait. Mais une grande partie de la population a confiance à la police nationale. Mais là, on est arrivé avec la crise des jaunes dans quelque chose qui est d'exceptionnel. Aucun pays, non plus en Europe, n'a connu une crise sociale pendant plus d'un an. Nous sommes confrontés, alors on n'est pas le dernier rempart, la police nationale, j'aime pas trop ce mot, mais nous sommes ceux qui, quand tout va mal, quand on a échoué politiquement, quand on a échoué socialement, eh bien on doit résoudre les problèmes, on ne peut pas tout résoudre. Et cette crise, oui, vous avez dit, il y a eu plus d'incidents, mais aucun autre pays n'a connu ce phénomène-là. Et nous avons dit dès le départ, là aussi, nous avons un problème de formation. Aujourd'hui, dans la gendarmerie nationale, vous avez les gendarmes mobiles qui font du maintien de l'ordre. Mais tous les autres gendarmes en France ne font pas du maintien de l'ordre parce qu'ils ne sont pas formés pour ça et le gendarme de votre village ne fait pas de maintien de l'ordre. Nous, policiers, comme nous sommes dans les grandes villes, on leur dit vous êtes dans des zones sensibles et comme on n'a pas assez de forces de l'ordre, il faut aussi que vous fassiez du maintien de l'ordre. Et vous n'êtes pas équipés, vous achetez des parties bien chez Decathlon, vous n'avez pas l'habitude d'être confronté à des violences inouïes qu'on a connues. Donc il faut revoir tous ces principes-là pour qu'on mette des gens qui soient spécialisés pour faire ce travail-là. Et je crois que c'est important. Et il faut revoir aussi la formation. On a un vrai problème de formation dans la police nationale.
On se retrouve dans un instant, Christophe Rouget.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Christophe Rouget, commandant de police, secrétaire général du CSSI, le syndicat majoritaire chez les officiers de police. Christophe Rouget, la police française, à la différence de la police britannique par exemple, n'est pas tenue de se sentir au service de la population. Ça ne fait pas partie des choses qu'on lui inculque. Alors elle est au service de qui ?
Elle est au service de la population, mais elle est instrumentalisée. Elle est instrumentalisée. Le policier, le matin, quand il se lève, il dit « je ne suis pas le policier de Macron, Sarkozy, Hollande ». Il se dit « je vais faire mon métier, essayer d'interpeller des délinquants, faire du renseignement, faire des enquêtes, être présent sur la voie publique ». Donc il faut qu'on arrive effectivement à sortir de ça. On ne peut pas dire tout d'un coup « on a un problème avec des violences policières », mais paradoxalement, demander à tous les policiers de faire du chiffre, sans arrêt, du chiffre, et de dire « la formation, on ne peut pas la faire parce qu'il y a une opération stup, on ne peut pas faire les séances de tir, on ne peut pas faire le sport qui est nécessaire, parce que pour être efficace sur la voie publique, il faut être entraîné ». Donc on ne peut pas, vous voyez, c'est ça, la police, elle est victime d'injonctions contradictoires en permanence et instrumentalisées.
Mais en même temps, elle est instrumentalisée, le gouvernement a besoin de la police, on comprend pourquoi, il y a une crise sanitaire, il y a une crise sociale, mais en même temps, le gouvernement, parce qu'il a besoin de la police, il lui pond une loi sécurité globale taillée sur mesure et il ne la réprimande que du bout des doigts en cas de bavure, sauf là, parce que là, c'est beaucoup trop.
Alors, je ne crois pas, parce que les policiers, ils sont massivement contrôlés, massivement sanctionnés. Ils sont contrôlés par l'IGPN. Alors, certains disent, oui, ça devrait changer, on peut toujours évoluer, mais beaucoup de pays en Europe nous l'envient. Parce que nous avons, en France, un pays où nous avons une force nationale, deux forces nationales. Peut-être qu'il faudra d'ailleurs faire évoluer, parce que ça coûte très cher aux citoyens d'avoir deux forces concurrentes dans tous les domaines. Mais nous avons des contrôles, nous avons énormément de sanctions, et les magistrats, le défenseur des droits, les journalistes, tout le monde nous contrôle. Donc je crois que ça c'est bien, et il faut qu'on améliore encore ce contrôle des policiers, mais surtout il faut qu'on améliore aussi la formation. Parce que si vous voulez avoir, on est dans des contradictions, on a eu les attentats, il fallait des policiers, on recrute. Donc du coup, on a diminué un peu les formations pour avoir ces policiers plus vite sur le terrain. Donc ça c'est un vrai problème. Ensuite la formation continue. Ça, c'est un vrai problème aussi, parce que comme on a trop de travail, on ne peut plus faire les formations continues. Et la formation initiale aussi. On a un vrai problème d'encadrement dans la police nationale. Et nous, le président de la République, lors de sa campagne présidentielle, a dit « on va faire une académie de police où on va réunir tous les corps ». Et nous, ça fait 20 ans que nous nous battons, par exemple, parce que la chaîne de commandement, c'est important, qu'elle soit cohérente, qu'elle puisse contrôler la police nationale, pour que les officiers et les commissaires soient sur le même site, travaillent ensemble, comme dans toute le reste de la fonction publique. Et nous, on est à 500 km. Et ça, c'est pas normal. Vous voyez, il faut faire évoluer les choses.
L'IGPN, elle est souvent sous le feu des critiques. Elle participe, dit-on, du sentiment d'impunité dont jouiraient les policiers. On l'a vu encore une fois avec le rapport qui avait été fait sur le passage à tabac de ce producteur, l'outrage, la rébellion qui sont souvent invoqués dans les rapports. Mais on l'a vu là, c'est totalement en contradiction avec la réalité. L'outrage et la rébellion, est-ce que ça ne sert pas à justifier toutes les exactions ?
Non, ça ne sert pas à justifier toutes les extractions, parce que justement, les policiers aujourd'hui sont victimes de part à la société qui a évolué. On voit bien que les policiers ne sont plus respectés, mais pas uniquement les policiers. Les pompiers, les enseignants sont attaqués tous les jours. Et pourtant, ils ne font pas de contrôle d'identité, ils ne font rien. Et les pompiers sont attaqués tous les jours en France avec des mortiers, en même temps que leurs collègues policiers. Donc non, l'IGPN, vous savez, là, elle a travaillé vite. D'abord, on a changé d'enquête. Là, elle a travaillé vite, elle a identifié nos collègues qui seront suspendus. Et Michel Zegler le disait hier, j'ai dit que je ne mets pas tous les policiers dans le même sac, même ceux qui sont arrivés après. Ce n'est que ces trois policiers. Je connais plein de policiers qui font correctement leur métier. Donc l'IGPN fait bien son travail, et je crois qu'il faut qu'on continue à progresser sur la déontologie, qu'on continue à progresser sur la formation, parce que c'est là vraiment l'origine du problème.
Parlons de la BAC, la brigade anticriminalité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est elle qu'on a vue dans les vidéos de la place de la République, hein, dont un commissaire divisionnaire de la BAC de nuit en Seine-Saint-Denis qui fauche un migrant d'un méchant croche-pied et le fait tomber au sol. Un autre policier de la BAC sur une vidéo donne un violent coup de pied à un réfugié, maintient au sol un journaliste de Brut, Rémi Buivine, en brandissant sa matraque. Je me souviens d'un livre livre de l'anthropologue Didier Fassin, Les forces de l'ordre, une anthropologie de la police des quartiers aux éditions du Seuil. Il avait suivi la BAC pendant assez longtemps et disait qu'il y avait beaucoup d'inaction qui générait l'ennui et que pour s'occuper, ils allaient au contact de la population, contrôle d'identité, fouilles. Au fond, ça n'affectait en rien la criminalité à la vraie, mais ça faisait monter les tensions et ça occasionnait des bavures.
Alors la BAC, vous savez, c'est quelque chose qui a été créé il y a déjà très longtemps, en 1971. Depuis, on a augmenté les effectifs de la BAC, notamment dans les années 90. Le problème de la BAC, c'est qu'il faut un métier extrêmement sensible. Il faut que vous passiez des tests, il faut que vous fassiez des entretiens, il faut que vous fassiez des entraînements, parce qu'ils sont au contact de ce qui est le plus dur. La délinquance dans les quartiers qui ont été abandonnés de tous, les quartiers de la République où règne maintenant un apartheid social, économique, ethnique. Donc c'est très compliqué de travailler dans ces quartiers-là. Après sont arrivés les attentats. On a dit, vous serez aussi des primo-intervenants, donc on les a formés. Et aussi, on leur demande de faire du maintien de l'ordre. Mais vous voyez, on ne peut pas demander de faire tout à tout le monde. Et on doit revenir aux fondamentaux, on doit former ces policiers pour travailler sur la lutte en délinquance, parce qu'il en faut. Les policiers, c'est multiple. Il y a des gens qui font du renseignement, des enquêtes. Eux font de la lutte anti-délinquance dans des quartiers sensibles. Mais il faut qu'ils soient compétents. Mais on ne peut pas leur demander en même temps de faire du maintien de l'ordre.
Merci Christophe Roger d'avoir répondu ce matin à toutes mes questions. On se retrouve dans un instant avec la prix Nobel de l'économie de l'année dernière, Esther Duflo.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Esther Duflo.
Bonjour.
Vous avez reçu l'année dernière le prix Nobel d'économie avec votre mari Abhijit Banerjee et Michael Kremer pour vos travaux sur la lutte contre la pauvreté. Vous avez publié Au Seuil en mars dernier un livre passionnant, Économie utile pour des temps difficiles. C'était prémonitoire comme titre. Quelques jours après sa sortie, on mettait l'économie mondiale sur pause, inaugurant des temps plus que difficiles.
Oui, un peu plus que prémonitoire que nous l'avions désiré, je dois dire.
Dans ce livre, vous disiez que la question la plus urgente, c'était comment aider les populations laissées sur le bord de la route. Or, depuis 8 mois, la pauvreté a bondi dans un pays comme la France. Un Français sur 3 subit une perte de revenus plus ou moins importante. Un Français sur 7 saute un repas par jour. 1 sur 2 dans les foyers les plus modestes. Ce sont les chiffres du Secours populaire et de l'Armée du Salut. On est vraiment dans un problème très urgent là.
Oui, on est dans une phase très très difficile. La pandémie, on l'a dit tout au début, c'était un grand égalisateur, mais ça n'a pas du tout été le cas. Les riches sont devenus plus riches, les pauvres plus pauvres. Au moins en France et dans les autres pays d'Europe, on a su protéger la plus grande partie des populations, grâce par exemple au chômage partiel. Mais pour ceux qui n'avaient pas d'emploi par exemple, et donc n'avaient pas l'occasion d'être en chômage partiel, c'est des temps qui sont encore plus difficiles que ceux dans lesquels ils étaient avant.
Le Premier ministre Jean Castex a annoncé un certain nombre de mesures, jeudi dernier. Mais comme souvent, ce sont les plus paupérisés qui vont passer à travers les mailles. Ceux qui, comme vous le dites, n'avaient pas assez travaillé l'année d'avant, par exemple. Ceux qui n'ont pas le RSA. Ou les jeunes, beaucoup de jeunes. Même s'ils sont visés par ces mesures, ce sont les premières victimes de la crise du coronavirus.
Oui, la grande difficulté, c'est que nos systèmes d'assurance sociale sont plus construits sur l'exclusion que l'inclusion. On essaye d'éviter de donner aux mauvais pauvres et de bien récupérer que les bons pauvres. Or, devant une crise comme le coronavirus, ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est d'inclure au maximum. Et on a des systèmes de protection sociale dont l'architecture n'est pas vraiment bien adapté pour ce problème. Donc il va falloir le réinventer dans une large mesure.
Il y a aussi une autre particularité en France, me semble-t-il, c'est qu'on procède par accumulation de petites aides, au lieu d'augmenter franchement, par exemple, le RSA et de l'étendre. Ce qui fait que beaucoup ne savent même pas exactement à quoi ils ont droit.
Oui, on a un système qui est très compliqué, justement parce qu'il y a cette peur un petit peu à l'arrière-plan, d'aider des gens qui n'en auraient pas vraiment besoin ou qui ne le mériteraient pas vraiment. Il faut que les jeunes, les étudiants prouvent qu'ils soient vraiment, vraiment très pauvres pour mériter le RSA, soit en étant trop généreux que la pauvreté soit trop confortable, comme si les gens, s'ils avaient un RSA plus généreux, auraient la tentation de se prélasser dans leurs circonstances de pauvreté.
L'intérêt de votre dernier livre, Économie utile pour des temps difficiles, c'est que vous explorez justement toutes les formes d'aide, toutes les façons qu'on a de par le monde de lutter contre la pauvreté. L'idée qui fait son chemin, écrivez-vous, depuis quelques années, c'est celle du revenu de base universel qui ne laisserait personne au bord de la route, puisque tout le monde le toucherait à partir de sa majorité. Est-ce que c'est viable ?
C'est viable. Dans un pays comme la France, le grand désavantage d'un revenu universel, c'est justement qu'il est universel et que donc il ne fait pas de différence entre ceux qui ont vraiment besoin d'aide et ceux qui n'en ont pas besoin parce que, par exemple, ils ont déjà un revenu... ils sont déjà bien installés dans la société. Donc, dans un pays comme la France, on pourrait se dire qu'on n'a pas besoin d'un système tellement qui fasse comme ça aucune différence. Parce qu'on a en principe les ressources statistiques pour identifier ceux qui ont besoin d'aide et venir à leur secours. Dans des pays plus pauvres, où les appareils statistiques fonctionnent moins bien, l'avantage d'un revenu universel, c'est justement qu'on ne laisse personne sur le côté. Le problème de la France, c'est que bien que l'appareil statistique existe, genre qu'il n'y a pas forcément la volonté d'être généreux et inclusif dans le système. Mais ce serait possible sans aller complètement à l'universalité si on avait au moins un revenu minimum garanti pour tous.
Oui, parce qu'à l'universalité, ça coûte très très cher, hein, vous le disiez dans votre livre.
L'universalité coûte très très cher, puisque c'est universel justement. Donc le désavantage d'un revenu universel dans un pays comme la France, c'est qu'il serait nécessairement très très faible, ou alors il prendrait la place de tout l'appareil qui existe aujourd'hui, qui a d'autres formes d'assistantes qui sont importantes, comme les formations, comme l'aide à la petite enfance, etc. Donc il y a vraiment un choix à faire entre cette universalité qui a l'avantage de ne laisser personne sur le côté et des aides qui pourraient être plus généreuses si elles étaient concentrées sur ceux qui en avaient besoin. Mais dans ce cas-là, ça demande vraiment de faire un effort, je pense que plus important que celui qu'on fait aujourd'hui, pour identifier tous ceux qui en ont besoin. Et le problème du système qu'on a aujourd'hui, c'est comme vous le disiez au départ, on laisse vraiment de côté des gens qui sont dans une très très grande précarité, tellement grande en quelque sorte qu'ils n'arrivent pas à comprendre à quoi ils ont droit, où ils sont repoussés par le système, où le système a trop d'obstacles à franchir pour finir par décrocher le revenu. Donc il faudrait un système qui de l'esprit de cibler ceux qui en ont besoin, tout en enlevant ce principe de course d'obstacles qui rend justement l'accès très difficile à ceux qui en ont le plus besoin.
On fait une pause, Esther Duflo, on se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Parmi les mesures que Jean Castex a annoncées, il y a beaucoup de mesures en faveur des jeunes en difficulté. Les jeunes représentaient déjà la moitié des pauvres en France. Et le rapport sur la pauvreté, qui vient d'être rendu cette semaine par l'Observatoire des inégalités, montre que ça s'est encore aggravé. Alors parmi ces mesures, il y a notamment la création de 20 000 jobs étudiants, des contrats de 10 heures par semaine pendant 4 mois. Ça m'a fait penser à une mesure dont vous parlez dans votre livre, Esther Duflo, c'est ce que avaient proposé Kamala Harris et Bernie Sanders pendant la campagne pour les primaires démocrates, une sorte de Green New Deal, une garantie de l'État grâce à laquelle tout le monde désirant travailler aurait droit à un bon pour un emploi à $15 de l'heure avec une retraite, la sécurité sociale, des congés payés. Depuis, Kamala Harris est devenue vice-présidente des États-Unis, mais est-ce que ça a de l'avenir, une mesure comme celle-ci, d'après vous ?
Moi, je pense que c'est une mesure qui peut être importante. En tout cas, il faut que les emplois soient créés. Ce qu'on propose dans notre livre, c'est un Green New Deal intelligent ou un keynésianisme intelligent, où non seulement on donne une garantie, pas forcément une garantie d'emploi, ça peut aller être une garantie, mais surtout on crée des emplois qui sont utiles pour la société, mais pas facilement, qui n'ont pas forcément une rentabilité suffisante pour le secteur privé. Exemple de ces emplois, des emplois de soutien dans l'éducation nationale qui existaient. Quand moi j'étais enfant, il y avait des surveillants dans les écoles qui étaient tous des étudiants. Ces surveillants ont essentiellement disparu. Or, ils jouaient un rôle qui était un rôle de lien social important. Il pourrait y avoir des rôles de soutien à la petite enfance, des rôles de travailler avec les pour aider les personnes âgées à rester chez elles en autonomie le plus longtemps possible. On a bien vu dans la crise du coronavirus que à la fois le soutien à la petite enfance et le soutien aux personnes âgées sont deux secteurs qui ont besoin de plus de personnes, de plus de personnel. C'est des secteurs qui sont bons pour la société, qui sont pas remplaçables par des ordinateurs ou des robots, qui ne sont pas exportables en Chine, donc qui sont des secteurs où les emplois resteront. Et qui sont potentiellement créateurs non seulement d'emplois pour les étudiants, mais de débuts de carrière. Et donc créer ce type d'emploi, et ça veut dire forcément les financer derrière, et donc augmenter les budgets de l'éducation ou le budget vers les personnes âgées, ça sert deux objectifs à la fois. L'objectif d'avoir un accès à l'emploi, en particulier pour les jeunes ou pour ceux qui sont éloignés du marché du travail, et leur utilité sociale directe.
Vous parlez des aides qu'on peut imaginer pour aider les gens à bouger, par exemple, à changer d'emploi ou à changer de région. Mais vous avez une autre idée assez radicale dans votre livre, c'est qu'on pourrait subventionner certains travailleurs parmi les plus âgés, mais pour rester là où ils se trouvent.
Une des grandes leçons que nous avons découvertes au fil de l'écriture de ce livre, c'est que une des hypothèses que font à la fois les économistes et les hommes et les femmes politiques sur le marché du travail est très largement fausse. Et cette hypothèse, c'est que les travailleurs sont relativement fluides, c'est-à-dire s'il y a un problème quelque part, ils peuvent changer de secteur ou ils peuvent changer de région. Et en fait, ce qu'on trouve de par le monde, en France, c'est le cas, mais aussi aux États-Unis, où je pense qu'on a eu l'illusion que les choses sont beaucoup plus fluides, c'est que les gens préfèrent rester chez eux, rester dans le secteur où ils travaillent. Et donc la mobilité est extrêmement difficile et extrêmement coûteuse. D'où les deux réponses, c'est-à-dire si les gens sont suffisamment jeunes, qu'ils ont toute une carrière devant eux, dans ce cas-là, il faut les aider dans cette mobilité. Donc à la fois les aider financièrement, les aider à trouver un logement, les aider à se déplacer, etc. Mais si les gens sont suffisamment âgés pour que commencer une nouvelle carrière n'ait pas de sens, dans ce cas-là, ça peut être raisonnable, ça peut faire sens de les payer pour rester en place. Et ça peut paraître un petit peu hétérodoxe d'un point de vue pour un économiste de dire ça, qu'il faut simplement aider les gens à rester où ils sont. Mais ça peut se concevoir comme un petit peu l'équivalent de la politique agricole commune, où oui. on paye en quelque sorte les gens pour que l'environnement social, l'environnement économique ne tombe pas dans une spirale de dépression comme on le voit dans certaines régions où les gens perdent leur emploi. Du coup, n'achètent plus dans les boutiques, du coup, les boutiques sont fermées, du coup, les gens qui travaillent dans les boutiques perdent aussi leurs emplois, etc. Et de permettre aux gens de rester en place, de continuer à travailler dans des conditions dignes, même si leur travail n'est plus économiquement viable sans cette aide, peut, en fait, permettre de garder de la vie à un territoire, à une région. Ce qui permet, du coup, à d'autres entreprises de se dire, tiens, on va peut-être déménager là, nous. Et je pense qu'un des endroits où ça s'est produit, c'est dans le nord de l'Espagne, où quand il y a eu un déclin du tissu industriel, en fait, il y a eu de fortes subventions pour que les gens puissent rester là où ils étaient. Et l'ancien tissu industriel a été progressivement remplacé par des entreprises plus modernes dans le secteur informatique, etc. Et donc, il y a une transition qui s'est faite sur plusieurs années, en douceur, et sans le type de traumatisme qu'on voit dans certaines villes, que ce soit dans l'est de la France ou au milieu des États-Unis.
Les choses changent de plus en plus vite, vous le disiez dans votre livre, Esther Duflo, mais on croyait avoir tout vu depuis la chute du mur de Berlin, avec l'émergence de la Chine, de l'Inde, l'apparition des GAFA. Mais là, avec la crise du coronavirus, on reste stupéfait. En 24 heures, les restaurants, les cinémas, les boutiques, les stades ont fermé partout ou presque dans le monde. Les compagnies aériennes sont restées clouées au sol. On a véritablement le sentiment, maintenant, on a la preuve que tout peut arriver.
Oui. Je pense qu'on a vu, la catastrophe se dérouler devant nos yeux. Et je pense qu'on s'est rendu compte, pour la plupart des gens, pour la première fois, en tout cas pour moi, c'était clairement que c'était pour la première fois, que parfois, la nature est simplement plus forte que nous, que parfois, ça nous dépasse. Et là, en quelque sorte, si tous les bonnes nouvelles, les vaccins se confirment, on a eu de la chance parce que finalement on arrive à s'en sortir de l'autre côté. Mais je pense que ça va être une, je pense que ça va être une leçon pour nous, pour devenir plus conscient de l'importance de s'attaquer dès aujourd'hui à essayer de mitiger le changement climatique. En quelque sorte, c'est une répétition générale de ce qui va nous tomber dessus avec le changement climatique. Ou à nouveau, un jour, les choses vont basculer, la nature sera plus forte que nous. On nous aura prévenus, comme on nous avait prévenus pour la pandémie. Mais jusqu'à présent, on n'a pas bien écouté. Et on n'avait pas bien écouté avec la pandémie, on n'a pas bien écouté jusqu'à présent avec le changement climatique. J'espère que ça va servir de réveil et ça va aider les gens à prendre conscience que parfois il faut faire attention à ce que les scientifiques nous disent.
Économie utile pour des temps difficiles, c'est le titre de votre dernier livre, Esther Duflo. Il est paru au Seuil et comme les librairies rouvrent, on peut le trouver d'autant plus facilement. On va d'ailleurs parler de la réouverture des librairies dans un instant avec Cyril Gély. Merci Esther Duflo d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Cyril Gély.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de célèbres pièces de théâtre comme Signé Dumas ou Diplomatie qui sont ensuite devenues des films. Aujourd'hui, vous sortez un roman, La forêt des violons, chez Albin Michel, juste au moment où rouvrent les librairies. C'est étrange, non, dans un pays comme le nôtre qui sacralise tellement les livres que tout candidat à la présidentielle se doit d'avoir publié le sien, que le gouvernement n'ait rien trouvé de mieux à faire, sous prétexte de lutter contre le coronavirus, que de fermer les librairies. Et même mieux, les librairies papeteries sont restées ouvertes. Hein, j'étais dans l'une il y a peu, elles pouvaient vendre du papier, mais elles avaient l'interdiction de vendre des livres.
Oui, c'est vrai que c'est fou, parce qu'après le confinement social, c'est l'isolement culturel. Et on ne peut pas accéder à la culture. Et j'ai su qu'après le premier confinement, il y avait une sorte de ruée auprès des libraires, auprès des cinémas, auprès des théâtres. Et je pense qu'on est tous aujourd'hui vraiment en manque, peut-être pas de culture aussi, mais d'émotion, de soutien, de voyage, de rêve. Alors heureusement, c'est une bonne nouvelle.
Votre roman se passe au XVIIe siècle, en Italie du Nord, après l'épidémie de peste noire d'ailleurs, hein, qui a tué en 2 ans 1/4 de la population à l'époque. Ça se passe à Crémone, en Lombardie, une petite ville qui a la particularité d'avoir abrité les plus grands fabricants de violons. Ouais. C'est une singularité, c'est assez extraordinaire quand on y pense.
C'est complètement fou, parce que c'est vrai que dans l'histoire de la lutherie, vous avez quand même deux génies, hein, absolus, ce qui est nettement au-dessus des autres. Vous avez un premier qui s'appelle Antonio Stradivari, et le second qui s'appelle Guarneri del Gesù, et les deux sont à peu près de la même époque. Ils sont nés dans la même ville. L'un, le second, a été quand même l'élève du premier. Et quand on regarde leur violon, bah, c'est vraiment tous les violons issus de leurs mains sont absolument extraordinaires.
Vous oubliez Niccolò Amati, qui est un des personnages de votre roman aussi. C'est le petit-fils d'Andrea, c'est le plus illustre de la famille, parce qu'ils ont
été
nombreux.
C'est le plus illustre de la famille Amati.
Il a fabriqué des violons extraordinaires, très très rares, et c'est lui qui était le professeur de Stradivari.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman? C'est cette petite ville de Crémone? C'est l'amour du violon, l'amour de la lutherie?
Moi, je vais vous dire, en fait, je suis tombé un soir sur... Je regardais un peu par hasard Internet sur les vieux métiers d'antan, ceux qui n'existent plus forcément aujourd'hui. Et je suis tombé, le premier métier que j'ai lu, c'est acheteur de bois chantant. Acheteur de bois charmant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce métier? C'est joli, rien que ce mot m'a tout de suite séduit. J'ai commencé à faire des recherches et je me suis aperçu que c'était des personnes à l'époque qui partaient dans les forêts pour trouver du bois pour des luthiers. Je me suis dit, mais quel métier incroyable! Alors j'ai essayé de me renseigner et puis par ricochet, c'est devenu le livre que vous avez dans les mains.
Vous avez, Cyril Gély, toujours fait de la fiction à partir de la réalité historique. Hein, votre premier roman, Le Prix, c'est sur le prix Nobel que la physicienne Lise Meitner aurait dû partager avec Otto Bahn en 1946. Signé Dumas, c'est sur le rapport entre Alexandre Dumas et son règne et son nègre Auguste Macquet. Diplomatie, sur la négociation en 1944 entre le consul général de Suède Nordling et le gouverneur du Grosse-Paris von Scholtitz pour qu'il renonce à faire sauter Paris comme il en avait reçu l'ordre. Là encore, c'est la réalité historique. Donc ces fabricants de violons, et notamment le plus important d'entre eux, Antonio Stradivari, qui sert de détonateur. Vous avez besoin de ça à chaque fois? Vous ne pouvez pas partir de rien?
En fait, si, je pars de rien. Parce que tous les exemples que vous avez donnés, justement, ce sont des blancs de l'histoire. C'est-à-dire que la rencontre entre Lise Meitner et Otto Hahn a eu lieu, mais on ne sait pas ce qui s'est dit. C'est devenu le prix. On a très peu d'informations sur les 30, les 35 premières années de la vie de Stradivarius. Et ben moi, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur lui. Et un blanc de l'histoire comme celui-ci, en définitive, c'est une sorte de page blanche à l'intérieur de laquelle vous entrez et alors vous avez toutes les libertés du monde. Et c'est ce que j'aime, moi.
Stradivari, donc Antonio, il est mort à 93 ans, mais on sait très peu de choses de lui. On sait tous ce qu'est un Stradivarius, c'est ça, la latinisation de son nom qu'on a donné au violon, mais qui connaît Stradivari, Antonio ? Personne.
Justement, c'est ça qui est formidable. Autant essayer de lui donner vie, autant essayer de lui donner corps. L'histoire, très brièvement, c'est quoi ? C'est celle d'Antonio, vous l'avez dit, qui habite Cremone, un petit village au nord de l'Italie. On est en 1670, 1680, et il a un désir, il est tout jeune, il a 20 ans, c'est de créer des violons, fabriquer des violons. Or, à l'époque, il faut, et encore aujourd'hui, deux bois essentiellement, de l'érable, hein, qui est assez stable, assez dur, qui se trouve assez facilement à l'époque, et puis un beaucoup plus cher, beaucoup plus rare, qui est de l'épicéa, et qui est un résineux et qui pousse en altitude. Donc, il entreprend un premier voyage vers les montagnes roses, qui ne s'appellent pas encore les Dolomites à l'époque, où il a la chance de croiser un vieux paysan qui l'emmène dans la forêt et avec lequel il va choisir cinq magnifiques épicéa pour tous ses violons futurs. Problème ? Antonio n'a pas un sou en poche, pas un rond. Et donc, le vieil homme, le vieux paysan, lui propose un pacte. Pour chaque épicéa que je couperai, tu me fabriqueras un violon. Et ça raconte cette histoire.
Au-delà de ça, c'est sur un autre mystère qui fait qu'aucune technologie moderne n'arrive à la hauteur de ce que Stradivari parvenait à faire en collant ensemble 71, hein, je crois, c'est 71 pièces de bois. Hein. Un violon, c'est 71 pièces de bois. C'est de l'épicéa, comme vous l'avez dit. Mais rien aujourd'hui, et pourtant nos technologies sont fabuleuses, rien ne nous permet d'arriver à la cheville de ce qu'il parvenait à faire avec son bois.
C'est vrai, hein, on a même fait des comparaisons entre les Stradivarius et des violons de carbone. Il n'y a pas photo, Stradivarius est nettement devant. Alors on s'est posé plein de questions. Est-ce que c'est des bains chimiques qu'il faisait à ses bois ? Est-ce qu'il a utilisé des champignons pour venir manger les levures qui n'étaient pas bonnes ? Le vernis, on en a beaucoup parlé. Est-ce que le vernis donnait le son extraordinaire des Stradivarius ? On a fait des recherches. Pas du tout. Les vernis n'y sont pour rien. Alors on s'est dit, c'est peut-être le petit âge glaciaire, hein, qui est l'époque justement de Stradivarius et de Guanari del Gesù. Pourquoi pas ? Moi je pense une chose. C'est que si les Stradivarius aujourd'hui sont si sublimes, c'est parce que lui-même, Antonio Stradivarius, était sublime.
Oui, et puis parce qu'il y avait rencontré une ou deux femmes sublimes aussi dont vous parlez,
oui,
dans votre roman.
Oui, bien sûr. Ouais, il faut toujours une femme si on veut réussir.
Et
c'est important.
Les violences, parfois, ressemblent à des femmes. Il faut bien le reconnaître. Ou les femmes ressemblent à des violons. On ne sait
oui,
pas.
Vous connaissez bien cette photo de Man Ray où on voit cette femme un peu de dos, même complètement de dos, avec son visage tourné. Il y a deux ouïes, hein, sur ses hanches et ça, la forme d'un violon. Et moi, je vous avouerai que ça aussi, ça m'a donné envie. Cette photo m'a donné envie d'aller plus loin, de creuser cette photo. Et c'est un peu aussi cette histoire, le livre.
C'est fou de penser qu'il reste, je crois, 700 Stradivarius à travers le monde, 250 Guarneri, de cette époque en tout cas. Des Amati, il y en a très très peu, ils sont très rares. Vous en avez eu entre les mains, vous, généralement, ceux qui les possèdent se promènent toujours avec eux.
Oui, oui, vous avez Joshua Bell qui en a un, vous avez Zac Perlman qui en a un, ils sont encore quelques-uns, je crois que c'est hors de prix, c'est plusieurs millions de dollars. Maintenant, vous avez à Cremone un magnifique musée où il y a une vingtaine, une trentaine de Stradivarius. Et ça vaut le coup d'œil, ça, c'est vraiment extraordinaire. Il y a une beauté, rien que lorsque vous voyez le violon, vous avez envie de le prendre dans vos bras, sans même qu'il émette une seule note de musique. Donc c'est déjà extraordinaire.
La forêt des violons, c'est le nouveau roman de Cyril Gély qui vient de paraître chez Albin Michel, juste au moment où rouvrent les librairies.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain à 9h avec Christophe Guilluy. C'est celui qui a forgé le concept de France périphérique que tout le monde utilise aujourd'hui. Après le flash de 10h, vous avez rendez-vous avec Mediapolis. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Frédéric.
Quel programme ?
Un homme de gauche, forte tête, grande gueule, Jean-Christophe Cambadélis.
Passez une bonne émission.